Nous avons l'habitude, j'ai un peu pris l'habitude en tout cas, lorsque l'été arrive, de prendre un personnage biblique et d'essayer de le suivre un petit peu. Nous avons eu plusieurs personnages que nous avons ainsi suivis pendant l'été. Gédéon, Samson, Élie, Ruth, Samuel, c'était les derniers. Il y a 3 ans, donc, nous avions pris un long temps pour suivre le prophète Élie, et je propose que nous puissions commencer à aborder un petit peu à suivre son successeur, à savoir Élisée. Alors, nous n'allons pas pouvoir faire toute la vie d'Élisée, mais quelques extraits de la vie d'Élisée. Et je vous invite donc à lire aujourd'hui le début du ministère d'Élisée, dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois, chapitre 2, les versets 15 à 25. Je rappelle le contexte. Élisée a longtemps été avec Élie. Élie ensuite a été enlevé au ciel par un chariot de feu. Les fils des prophètes ont cherché à être bien sûrs qu'il était parti. Et on a la confirmation qu'en effet, il est parti aux cieux. Et donc nous lisons donc 2 Rois, chapitre 2, verset 14 et 15. Donc, verset 14, donc Élisée quitte le lieu où Élie était parti. Il partit, prit le manteau d'Élie qu'il avait laissé tomber, en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui disent, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes, qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit du Seigneur l'a emporté et jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il leur répondit, ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent avec insistance. Élisée dit alors, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui, qui était resté à Jéricho, et il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas. Les hommes de la ville de Jéricho dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, mais comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. » Élisée dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, « Ainsi parle le Seigneur, j'ai assaini cette eau. » Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée monta de là à Bethel. Et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient, « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, Élisée se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Les passages de témoins sont toujours des moments qui comptent. Lorsqu'une grande figure se retire ou n'est plus, il est important de savoir si le relais sera pris, de savoir aussi par qui ce relais sera pris et comment il sera pris. Le meilleur et le pire peuvent se passer. Sans relais adéquat, l'œuvre de quelqu'un peut rester isolée, cantonnée à elle-même comme une île au milieu de l'océan. L'œuvre de Dieu, elle, doit continuer sa route. La continuité et le renouvellement des responsables dit que cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une figure marquante, mais bien celle du Seigneur. Le prophète Élie a été témoin de Dieu, un témoin de Dieu à la voix forte et puissante pour mettre au défi le peuple d'Israël et ses dirigeants qui voulaient remplacer le culte de Dieu par celui des Baals. Lorsqu'Élie est enlevé au ciel après avoir manifesté l'autorité de Dieu dans une série de bras de fer avec le roi Achab, avec la reine Jézabel, avec les prêtres de Baal, la question cruciale qui se pose, c'est où est le Dieu d'Élie ? Et la question a été posée dans le texte. Ce qu'Élie a montré, est-ce juste lié à sa personne, à son tempérament, ou y a-t-il authentiquement autre chose qui va plus loin, qui vient de plus haut et qui tient ? Tel est l'enjeu du ministère d'Élisée, successeur d'Élie. Élie a été puissant en parole pour mettre au défi les Baals. Élisée sera puissant en acte, avec un nombre impressionnant de miracles. C'est ainsi que Dieu a choisi de s'authentifier avec force et avec continuité, et ceci dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de son peuple. Dieu ne l'a pas fait de la même façon à toutes les époques. Mais là, avec Élie et Élisée, en cette période tellement sombre, il a voulu montrer qu'aucune ténèbre ne peut l'empêcher de manifester sa lumière. Le texte que nous considérons nous présente au tout début du tout nouveau ministère d'Élisée deux actions puissantes de Dieu. Deux actions qui accompagnent et qui accréditent certainement le successeur d'Élie. Ce qui est particulier, et je pense que vous l'aurez ressenti à la lecture du texte, c'est qu'on ne peut pas simplement applaudir des deux mains et dire « Oh, que c'est beau, que c'est grandiose !» On est ébloui d'un côté par le premier miracle, on est saisi de l'autre côté, saisi d'effroi de l'autre côté par ce drame. Les deux premières actions qui manifestent qu'Élisée est vraiment le serviteur de Dieu mêlent bonté et sévérité, bénédiction et avertissement sévère. Et nous voulons écouter ces deux récits dans leur équilibre. La première confirmation du ministère d'Élisée ne tarde pas après l'enlèvement d'Élie auprès de Dieu. Élisée passe quelques jours à Jéricho, où se trouve une communauté de fils des prophètes. Probablement, ces communautés étaient un peu l'ancêtre, l'embryon de nos facultés de théologie actuelles. Et voilà que les responsables de la ville de Jéricho viennent vers Élisée avec un exposé de la situation qu'ils connaissent. Ils disent d'abord, notre ville offre, comme tu le vois, un séjour agréable. Et c'est vrai, Jéricho était une ville très agréable. Elle était toute proche de la mer Morte, dans une zone très aride, très chaude, très encaissée. Mais c'était là une magnifique oasis à cet endroit-là, que l'on appelait la ville des palmiers, et ceci au milieu d'un désert pratiquement. Donc vraiment un lieu très agréable. Mais voilà, la source principale qui alimente la ville, cette source est mauvaise, elle est polluée, elle apporte la stérilité dans le pays. Quelle forme de stérilité ? Est-ce la reproduction humaine qui est altérée ? Est-ce les cultures qui sont atteintes de maladies ? On ne le sait pas exactement. Toujours est-il qu'il y a là un sérieux problème. L'eau qui doit faire vivre ne permet pas le renouvellement de la vie et met en danger même certains aspects de la vie. Jéricho est une ville très ancienne. Elle a été déjà occupée en 4500 ans avant Jésus-Christ. Mais cette ville a connu des périodes de destruction et de reconstruction. On sait que Jéricho est la première ville qui a été prise par les Israélites lors de la conquête de Josué, les murailles de Jéricho qui se sont effondrées. Et Josué avait alors prêté un serment et il avait dit « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Au moment où Élisée se trouve à Jéricho, les murailles de la ville viennent juste d'être reconstruites. Les travaux ont commencé une quinzaine d'années auparavant, au début du règne d'Akab, et la menace prononcée par Josué s'est réalisée lorsque les fondements et les portes de la ville ont été bâtis. Le constructeur a perdu ses deux fils successivement. Alors, question, cette source polluée à Jéricho, est-ce une nouvelle malédiction sur la ville? Est-ce une nouvelle fatalité qui tombe? On a vite fait d'enfermer les gens et les situations de cette façon-là. Ce que je trouve très beau, c'est que notre texte lui parle autrement. Notre texte nous décrit la démarche des responsables de la ville auprès d'Élisée. Une démarche où ils lui exposent leurs difficultés, où ils leur disent leurs besoins. Et il faut rappeler ici la situation. Jéricho est sous la domination du roi Akab. Et le royaume, dans son ensemble, a basculé vers l'adoration des Baals censés apporter justement la fertilité. Que voit-on ici? Les responsables de la ville n'ont pas recours aux prêtres de Baal, mais ils s'adressent à Élisée. Ils profitent de son séjour dans la ville. Élisée n'a encore fait aucun miracle. Ce sera son premier. Il n'est pas connu comme faiseur de miracles. Ce n'est pas pour ça qu'on s'adresse à lui. La requête exprime de certaine façon une attente dans le Seigneur. Et elle montre que l'on cherche un recours auprès du Dieu d'Israël et non des Baals. Et c'est juste remarquable dans le contexte où les choses se faisaient tellement différemment de partout. Et ça nous permet de réfléchir quand même. À cause de la parole prononcée sur Josué par Jéricho, on pourrait avoir tendance à penser que cette ville de Jéricho est le dernier endroit où le Seigneur aurait envie de faire un miracle. Mais il y a cette requête des responsables de la ville qui exprime une foi, qui exprime une attente en Dieu. Et le Seigneur choisit de répondre à cette attente. Et c'est cela qui compte pour lui d'abord, que l'on ait recours à lui, que l'on s'attende vraiment à lui. Et c'est ainsi qu'il agit, même si peut-être extérieurement tout le monde pourrait dire « Non, là le Seigneur n'agira pas ». Quand Jésus traversera Jéricho des siècles plus tard, il montrera le même genre de conception. Il apportera dans cette ville de Jéricho son salut et sa lumière à la personne, l'unique personne que tout Jéricho d'un commun accord estimait indigne de tout bienfait. Il accordera sa grâce ce jour-là à Zachée, le percepteur voleur qui avait profité abusement de son poste et de ses responsabilités et certainement détroussé pas mal de ses concitoyens. Pour tous, il était l'indigne, celui qui n'avait pas à bénéficier de l'attention et des bienfaits de Dieu. Mais Jésus, lui non plus, ne se laissera pas arrêter par cela. D'une certaine manière, Jésus discernera que Zachée était en recherche, en attente d'autre chose, et il ira vers lui pour répondre à son besoin. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que la foi, que l'attente sincère que nous pouvons avoir, mettre en notre Dieu, compte plus que toute fatalité décrétée à l'avance, que tout jugement que les uns ou les autres pourraient porter. Mettre sa foi, son attente dans le Dieu vivant, c'est être libéré de tous ces carcans. Ne nous laissons donc arrêter par rien. Si nous sentons notre besoin de Dieu, par aucun sentiment d'indignité, par aucun sentiment de prévention que Dieu veuille ou veuille pas, élançons-nous vers Dieu avec confiance, approchons-nous, demandons à Dieu de s'approcher de nous. L'apôtre Jacques nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et ça, ce n'est pas une parole qui est adressée à des gens qui sont déjà bien sous tout rapport. C'est une invitation à des gens qui sentent leur besoin de nettoyer leurs mains, de purifier leur cœur, qui reconnaissent leur misère. Le geste de la foi qui s'approche de Dieu est un geste qui, dans sa nature même, brise les carcans. Le Seigneur honorera ce geste et à cela, rien ne peut résister. Ayons donc confiance à chaque fois que nous cherchons à avoir recours à Dieu, tout comme ces hommes, ces responsables de Jéricho, ont recours au Seigneur et non au Baal. Élisée donc accepte la demande des responsables de Jéricho. Et il aura des gestes symboliques pour concrétiser son action. Il demande un plat neuf, et c'est certainement une manière de dire « il faut qu'on fasse du neuf maintenant, on va faire du neuf avec le Seigneur ». On ne sait pas pourquoi il utilise le sel qu'il va mettre dans l'eau. Le sel sert d'habitude plutôt à conserver les aliments, n'a pas de vertu particulière de purification. Vraisemblablement, Élisée utilise un ingrédient très commun. Il veut manifester le geste, qu'il y a un geste, qu'il y a une action particulière, mais il prend un élément très commun, basique, pour montrer que la vraie efficacité est celle de l'action de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il aurait trouvé le mélange avec les ingrédients qui permettraient d'avoir la bonne formule que les eaux vont être purifiées, c'est parce qu'il parle au nom de l'Éternel. Et c'est cette action de Dieu, cette parole au nom de Dieu qui compte. Alors le reste n'est que signe, et cela n'a que l'importance d'un signe. C'est la parole de Dieu qui est déterminante. Ainsi parle le Seigneur, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Comment les choses se sont passées? Parce qu'en effet, cette source va être purifiée. Certains pensent que des strates radioactives ont pu contaminer cette source et que le miracle alors a pu s'accomplir par une sorte de mouvement géologique. C'est des choses que j'ai lues. En fait, on ne sait pas vraiment le détail du détail. Ce qui compte, c'est l'effet. Au bout d'un certain temps, que constate-t-on? La source est saine. Et le texte nous précise que cet effet a été durable. La source est saine jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au jour où le deuxième livre des rois a été écrit. Autrement dit, ce que Dieu fait, cela tient. Ce que Dieu fait, ça fait du bien. Ce que Dieu fait, cela tient, cela dure. Je crois que nous sommes un certain nombre d'entre nous à expérimenter cette chose-là. L'action de Dieu est une action de Dieu qui tient, qui dure. On est reconnaissant pour cela. Voilà en tout cas des gens à bout de moyens qui voient l'action de Dieu en leur faveur. Voilà une source aux fruits amers qui redevient source de vie. Voilà une eau inutile qui redevient utile. Tout comme Moïse l'avait fait pour Israël au désert, Élie change pour les habitants de Jéricho une eau amère en une eau qui désaltère. Et c'est une image très forte est très parlante de l'action de Dieu. Le Seigneur, et nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur répand des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Dieu se manifeste comme source de vie, là où sans lui il n'y a que sources frelatées ou sources incertaines. Le Seigneur transforme aussi les sources profondes de notre vie. Jésus dira de lui-même, « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai » n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors avons-nous, nous aussi, besoin d'un renouvellement profond des sources de notre vie? Le Seigneur a cette capacité d'opérer ce changement. Il sait transformer les sources amères et incertaines en sources limpides qui renouvellent et qui durent. Ce premier miracle d'Élisée nous le dit, et c'est bienfaisant de le recevoir. Vous l'aurez peut-être constaté, il ressemble étrangement au premier miracle de Jésus à Cana. L'un et l'autre apportent le renouvellement là où les ressources sont taries. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Un Dieu qui renouvelle. Un Dieu qui apporte vraiment la fraîcheur d'une vie nouvelle. Et nous pouvons avoir recours constamment à ce Dieu-là. Alors on aimerait s'arrêter là. Et on aimerait pouvoir dire, oui, c'est beau, c'est magnifique, la puissance de Dieu lorsqu'elle se met en œuvre. Mais il nous faut recevoir toute la parole de Dieu. Et la suite du texte que nous avons lu, c'est cette seconde action où Élisée agit avec puissance. Mais cette fois-ci, la puissance, ce n'est pas pour une bénédiction. Mais la puissance, c'est pour un jugement. Des petits jeunes se moquent d'Élisée alors qu'ils montent sur la route de Bethel, qui est sur une colline. Élisée les maudit. Deux ours sortent de la forêt. Il y a 42 victimes. Au départ, un incident qui semble banal, une blague de petits jeunes. À l'arrivée, un résultat dramatique et qui peut sembler disproportionné, avec au centre une réaction d'Élisée que l'on a du mal à comprendre. Il maudit au nom de l'Éternel ces jeunes qui se sont moqués de sa calvitie. L'action puissante de Dieu manifeste ici une sévérité redoutable et qui nous semble même, reconnaissons-le, excessive. Une moquerie de petits jeunes mérite-t-elle pareil traitement? Essayons autant que possible de reconstituer la situation. Pour être honnête, ce n'est pas très facile, car il y a pas mal d'incertitudes. Première question, par exemple, quel est l'âge de ceux que j'ai appelés les petits jeunes et que d'autres traductions appellent des gamins ou des jeunes gens? Le mot qui est employé au début du récit, deux petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent d'Élie, le mot qui est employé peut désigner dans la Bible autant Ismaël à l'âge de 14 ans que Joseph à l'âge de 17 ans. On ajoute « petit jeune ». Ajouter « petit jeune », est-ce que c'est une volonté de rabaisser l'âge ou de souligner peut-être que c'était des gamins sans maturité? J'ai tendance à favoriser plutôt la deuxième explication. Premier mot donc, situe l'âge, peut-être des adolescents, peut-être plus jeunes, nous ne le savons pas. Il est question, lorsque l'on mentionne à la fin du passage des victimes, on emploie un autre mot pour dire elles lacérèrent donc les 42 de ces jeunes ou de ces adolescents. Et le mot qui est employé à ce moment-là, quand on regarde ses usages, est un mot qui lui aussi a un sens très large si on regarde les âges. C'est un terme qui désigne Moïse dans son couffin et qui peut en même temps aussi désigner les jeunes gens que consulte le roi Roboam une fois qu'il est devenu roi. Il consulte ses anciens compagnons, ses amis. Il est clair donc qu'il y a un champ assez large possible si on essaie de voir les mots. Mais il est clair aussi que cette histoire n'est pas du tout la même. S'il s'agit de gamins de 5-6 ans qui se sont moqués du prophète sans trop savoir ce qu'il disait, ou s'il s'agit d'ados de 15-16 ans qui ont un peu plus de responsabilité quand même dans leurs actes et dans leurs paroles. C'est donc une première chose qu'il faut considérer. Une autre difficulté concerne le bilan de cette affaire. Avec ces 42 victimes, que se passe-t-il pour ces 42? Sont-ils mis en pièces dans une sorte de carnage où on voit des corps déchiquetés? C'est pas tout à fait dit comme cela. Il est dit, les ours déchirèrent 42 jeunes. Ça n'implique pas forcément des morts, mais cela peut dire au moins qu'ils ont été sérieusement griffés, sérieusement blessés et peut-être sévèrement pour certains. Ce n'est quand même pas le verbe qui est tué qui est employé, on peut le relever même si on ne cherche pas non plus à nous rassurer sur l'issue des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette sortie des deux ours, qui étaient probablement à la recherche de leurs petits et qui a retrouvé ce groupe et dans la panique, dans le bruit, ça a été quelque chose de terrible, de terrifiant. Mais sans forcément devoir penser qu'il puisse y avoir tant de morts. Alors on peut se forger des images très différentes de ce qui s'est passé. La version la plus dure est d'imaginer que des gamins de 5-6 ans, sans être conscients de la portée de leur moquerie, ont été tous déchiquetés et tués par les deux ours comme représailles. Ça, c'est assez abominable comme histoire, si c'est cela. La version la plus pondérée imagine des jeunes gens de 15-16 ans, assez conscients de ce qu'ils faisaient en se moquant d'Élisée, et qui reçoivent une sévère correction de la part des deux ours, avec griffures, blessures, terreur de leur vie, mais dont au moins un grand nombre réchappe probablement malgré tout. On comprend mieux, même si cela reste effrayant. Autre question, on peut s'interroger aussi sur ce que signifie la moquerie adressée à Élisée quand il arrive à Bethel. « Monte, chauve !» Monte chauve. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette moquerie? Alors monte d'abord. C'est un fait que la route montait pour arriver à Bethel. Bethel était situé au sommet d'une rangée de collines et pour monter à Bethel, il y avait vraiment une belle grimpette à faire. En plus, Élisée était parti de Jéricho qui était un point vraiment très très bas. Et il avait déjà franchi pas mal de dénivelés. Il lui reste donc un dernier bout à parcourir et monte sauve, monte, renvoie cet effort à fournir. Pourquoi monte, chauve? C'est certainement que Élie avait une sorte de calvitie précoce. Alors, il faut rappeler que Élie n'était pas un vieillard. Élie commence son ministère à ce moment-là. Alors, certains ont pensé que c'était une sorte de tonsure qui serait un signe distinctif des prophètes. Mais on n'a rien pour le dire vraiment. On n'a rien pour le dire du tout. Mais si c'était cela, évidemment, à ce moment-là, on se moquerait d'Élie en tant que prophète. Mais ça ne permet pas vraiment de le dire. Ce n'est pas attesté. La moquerie peut porter tout simplement sur cette particularité physique d'Élisée. Il était chauve, on se moque de lui. Une autre possibilité est de comprendre l'expression comme une moquerie qui oppose d'une certaine façon Élie et Élisée pour les dénigrer tous les deux. Alors là, c'est un petit peu plus élaboré. Alors, l'idée, ce serait « monte chauve », c'est-à-dire « monte au ciel, toi aussi ». Comme on raconte partout qu'Élie est monté. Il est monté au ciel, il a eu un char de feu. Allez, monte au ciel, toi aussi. Plutôt que de devoir marcher. Tu dois marcher, toi. T'as pas de char pour marcher. Vous voyez, monte, toi qui dois faire la grimpette jusqu'à Bethel. Et là, ce serait une manière de se moquer à la fois de l'histoire d'Élie, de dire, mais cette histoire d'Élie enlevée au ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Et de se moquer d'Élisée qui, lui, est simplement humain en disant, lui, il faut qu'il marche. Alors, tu n'es même pas à la hauteur d'Élie auquel tu prétends succéder. Et une manière de se moquer d'Élie et d'Élisée. Et pourquoi lui dire « monte chauve » C'est encore une fois pour souligner la différence. « Ah, toi le chauve !» Alors qu'Élie était connu comme étant revêtu de poils, de chameaux, etc. Et une façon de dire « Ah, Élie, on oppose d'une certaine façon Élisée le chauve à Élie le poilu. » Un peu comme on opposerait, d'une certaine façon, on contrastait Don Quichotte et Sancho Panza, vous voyez, manière de dire, attendez, quelle histoire. Peut-être, il y a là une manière de se moquer de tout, de se moquer d'Élie, qui était monté soi-disant au ciel, de se moquer d'Élisée, qui lui doit marcher, de se moquer d'Élisée avec sa calvitie, si différent d'Élie, lui, plein de poils de partout, parce qu'il était l'original, ça se manifestait un peu comme cela. On marque la distance entre Élie et Élisée. Toi, tu es le chauve, t'es pas du tout au niveau d'Élie, le poilu. Et dans ce cas-là, s'il y a cette opposition et cette manière de tout dénigrer, il est clair que ça, c'est pas des gamins qui l'ont élaboré comme ça. Il est clair que si on pense les choses de cette façon-là, ce serait certainement une manière déjà de parler d'Élie et d'Élisée, beaucoup plus codifiée pour les dénigrer. Qu'on parle de l'un comme de chauve alors que l'autre était un peu plein de poils de chameau, ça veut dire vraiment qu'on les oppose, qu'on a pris l'habitude de les prendre l'un et l'autre en dérision. Et que dans le milieu où on est, où Élisée arrive, il y a ce regard-là sur l'un et sur l'autre. C'est une hypothèse de lecture que je vous soumets. Un autre élément à considérer est le nombre des petits jeunes impliqués dans la moquerie. Moi, j'ai souvent pensé à cette histoire quand je la lisais, en disant, Élie monte sur la route, il y a deux, trois gamins qui se moquent de lui, et puis ces petits gamins se font déchirer par des ours. C'est pas du tout cela. Vous avez vu combien de victimes il y a? 42 victimes. Ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à s'échapper. Il y avait au moins une soixantaine de gamins qui étaient là. Que font 60 gamins à être tous ensemble pour se moquer de quelqu'un qui monte sur la route de Bethel? Quel est ce comité d'accueil? Ils étaient tout un groupe, au moins une soixantaine, sortis de la ville à la rencontre d'Élisée avec leur slogan moqueur. Vous voyez, c'est donc pas une petite blague à deux sous qui est lancée par deux gamins au hasard sur le bord de la route. Le comité d'accueil et son message semblent bien plus organisés que cela, peut-être même un peu téléguidés. En ce qui me concerne, je pense que le nombre des enfants est l'indice d'un mouvement et d'une moquerie concertée. Bethel était le sanctuaire idolâtre concurrent de Jérusalem. Souakab, c'était certainement l'un des lieux hostiles à tout ce qu'Élie représentait, à tout ce qu'Élie avait fait en s'opposant au Baal. Il me semble que ce comité d'accueil des petits jeunes de Bethel est probablement envoyé là pour lui signifier le genre d'accueil qu'il peut attendre à Bethel de la part de tous les jeunes, de tous les gens. Et on imagine presque des adultes les encourager en disant « Allez un peu accueillir le chauve là qui monte vers vous, allez un petit peu lui montrer un accueil, allez-y, vous pouvez. » Et le petit jeu de la moquerie qui se met en marche avec toute la force, avec tout l'entraînement qu'implique le groupe. Une soixantaine de petits jeunes avec des meneurs, avec des suiveurs, avec des écervelés, c'est une force redoutable. Et c'est peut-être, et c'est ce qui a en tout cas accueilli Élisée à l'approche de Bethel. Je propose de penser que peut-être ce comité d'accueil était un peu envoyé. Que tirer de ce récit ? D'abord, la gravité de la moquerie. Je cite ici le professeur Émile Nicole dans un très bon texte sur ce récit. Et d'y parler de la moquerie est toujours une chose délicate, car le rire en soi n'est pas répréhensible. Le rire est souvent fort sympathique, mais quand même, on passe si facilement et si souvent sans en prendre conscience de l'humour à la moquerie. Juste pour dire, c'est délicat, rire sur quelqu'un, rire de quelqu'un, rire avec quelqu'un. Où est la limite entre l'humour et la moquerie ? La moquerie vise souvent une particularité ou un défaut physique, comme ici la calvitie d'Élisée. La façon dont la chose sera reçue va dépendre à ce moment-là de la façon dont la personne assume cette particularité dont on se moque. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la moquerie est toujours légère pour celui qui la lance et bien lourde et bien cruelle pour celui qui la subit. Attention donc à cette limite entre humour et moquerie. La première distinction est certainement celle de notre état d'esprit. Quelles sont nos intentions ? Sympathiques ou caustiques ? Mais il faut nous rendre compte que tout ne dépend pas de nous. Il faut aussi tenir compte de ce que l'autre peut recevoir ou ne peut pas, ou peut ne pas recevoir. Et cela, nous ne le maîtrisons pas. Et puis, il y a aussi la différence des attitudes relationnelles. On est dans l'humour et on reste dans l'humour quand on veille à la relation. Même si on fait un trait d'humour, on veille à s'assurer que la relation demeure. Et on compense par un petit mot gentil s'il le faut. On est dans la moquerie quand on ne s'occupe que de la flèche que l'on lance et qu'on a juste envie que cette flèche fasse son effet. La moquerie, donc, c'est quelque chose qui peut devenir redoutable et grave. Et en même temps, la frontière n'est pas toujours facile à déterminer. Il nous faut être vigilants. À partir de quand se moque-t-on de Dieu ? On sait qu'il est grave de se moquer de Dieu. L'Écriture nous le dit, on ne se moque pas de Dieu. Il faut quand même noter que, en général, c'est d'abord par notre conduite que nous nous moquons de Dieu, plus par nos conduites que par nos paroles hostiles à l'égard de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est vivre sa vie sans Dieu. C'est vivre sa vie sans se préoccuper du Seigneur et de sa volonté. Ça, c'est fondamentalement se moquer de Dieu. Alors, question, se moquer, comme ici, d'un homme de Dieu, est-ce se moquer de Dieu ? Faire une critique à un homme de Dieu, comme Élisée ? Il ne faut pas tout à fait identifier les deux. Un homme de Dieu n'est pas tout à fait Dieu quand même, en tout, à tout moment ou dans tout ce qu'il est. Vous pouvez rire de moi parce que je suis mal coiffé, par exemple. Ce ne sera pas très grave. Ce n'est pas une atteinte à Dieu, c'est juste une atteinte à Thierry. Vous pouvez vous moquer de moi si un jour j'ai ma cravate de travers, ce sera difficile à faire aujourd'hui, ou si j'ai fait un lapsus. Là, vous ne vous moquez pas de Dieu. Par contre, derrière certaines moqueries d'apparence anodine, il peut y avoir une façon de vouloir dénigrer l'œuvre de Dieu ou de vouloir dénigrer le choix de Dieu d'établir quelqu'un dans une fonction. Si, comme je l'ai suggéré, monte chauve, oppose Élisée et Élie et dénigre l'enlèvement d'Élie au ciel, là, on se moque clairement de Dieu. En disant, cette histoire de Dieu qui enlève quelqu'un au ciel, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Et puis, Dieu qui aurait choisi maintenant Élisée à la place d'Élie ? Mais là, on se moque vraiment, vraiment de Dieu. Il nous faut donc avoir beaucoup de prudence dans nos propos, beaucoup de clarté aussi sur nos motivations. Attention donc à la moquerie sous ces différents aspects. Une autre question que pose ce texte est celle de la responsabilité. Est-ce que ces gamins, est-ce qu'ils mesuraient tous ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils mesuraient ce qu'ils disaient? Est-ce qu'ils mesuraient dans quel but ils étaient peut-être utilisés, si c'était le cas? Probablement pas. Probablement pour que pour beaucoup, ce n'était qu'un jeu. On leur avait permis de s'amuser un petit peu sur le chauve là qui montait, et ils sont entrés dans la brèche. S'il y a eu simple entraînement par quelques jeunes, alors c'est la question qui menait un peu le groupe. Alors c'est la question de l'imitation qui se pose. Est-ce que je peux faire quelque chose simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait? Est-ce que c'est ça la légitimité? Il le fait, je le fais aussi. En groupe, souvent, c'est ce qui se passe. Les barrières de la responsabilité personnelle tombent parce qu'on se dit on est dans le groupe. Mais le résultat est un impact redoutable. Imaginez Élisée, avançant sous les huées de ces 60 gamins. Imaginez la façon dont les paroles des uns a très certainement aussi décuplé la parole des autres. Ils ne sont certainement pas restés à dire juste « monte chauve », il y a d'autres choses. Il y a une force du groupe, même si dans ce groupe, certains savent ce qu'ils font et d'autres suivent simplement. Pour celui qui subit l'impact, il vient du groupe tout entier. Il est d'ailleurs assez significatif que les ours, elles non plus, ne feront pas la différence. Cela nous invite à garder nos critères, à garder le sens de notre responsabilité personnelle, toujours, en toute situation, où que nous soyons, en groupe ou seul, c'est la même chose. Veillons toujours sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons. Ne cédons pas au simple phénomène d'entraînement qui semblerait pouvoir tout excuser. Élisée, nous dit le texte, se retourna et les maudit au nom de l'Éternel. On ne sait pas ce qu'il a dit. Ça dépend certainement du sens de leurs paroles, qu'avaient leurs paroles et leurs attitudes. S'il y avait beaucoup de moqueries et d'agressivité à son égard, il a pu les arrêter en disant « Dieu vous rendra votre attitude ». C'est tout simplement ça, maudire au nom de l'Éternel. S'il y a eu des attaques plus ouvertes pour se moquer contre l'enlèvement d'Élie au ciel, la parole a pu être plus sévère, car à ce moment-là, l'œuvre et l'honneur de Dieu étaient en cause. Ceci dit, ce n'est pas Élisée qui a demandé à Dieu que les ours sortent de la forêt, c'est le Seigneur qui a choisi de répondre de cette façon, de manière forte. Que retenir de tout cela? Le ministère d'Élisée, qui fera beaucoup de miracles, s'ouvre sur deux événements, Jéricho et Bethel. Deux manifestations de l'action puissante de Dieu. L'association des deux est un peu dérangeante. Elle est un peu dérangeante parce que nous voudrions tellement que la puissance de Dieu, par définition, soit toujours puissance pour nous apporter un bienfait, puissance pour nous restaurer, pour faire ce qui nous fait plaisir. Ce texte nous rappelle que Dieu utilise sa puissance dans ce sens-là, oui, avec grâce, mais qu'il utilise aussi sa puissance pour s'opposer au mal, pour manifester sa désapprobation, son rejet de telle ou telle conduite. Et je crois que c'est un avertissement qu'il nous faut entendre. La puissance de Dieu sait se manifester avec une générosité magnifique. C'est ce qu'enseigne Jéricho avec cette source qui est purifiée. Et c'est ce que nous chantons si souvent. Et c'est ce que nous découvrons dans nos vies aussi. La puissance de Dieu, qui est tellement généreuse, saura aussi se mettre à l'œuvre contre nous si nous faisons le mal, ou si nous nous moquons de Dieu, ou si nous nous opposons à son œuvre. Je crois que c'est ce qu'enseigne Bethel en face de Jéricho. Le début du ministère d'Élisée rappelle ces deux réalités, d'une manière forte et saisissante, parce que nous avons besoin de ce rappel. Le Dieu qui agit puissamment, le Dieu qui fait des prodiges, reste un Dieu de justice et d'équité. La bonté magnifique qu'il déploie dans ses miracles, dans toutes ses actions pour nous, ne lui enlève pas son acuité morale, son sens parfait de ce qui est juste et injuste, de ce qui est acceptable et inacceptable. Et nous savons qu'un jour, cela apparaîtra clairement, totalement. Car Dieu garde le monde en réserve, le monde entier le garde en réserve pour le jugement qui viendra. Et là, souverainement, avec une infinie justice et une parfaite vérité, le Seigneur donnera son verdict sur notre vie à chacun et sur celle de tous les humains, sans exception. Tout genou fléchira devant le Christ ce jour-là. Pour les uns, ce sera la gratitude infinie pour la justice du Christ dont ils auront été revêtus par grâce. Pour les autres, ce sera la reconnaissance. On fléchira devant Christ, oui, mais en devant accepter sa sentence sur eux. Je ne te connais pas. Tu n'as pas voulu de moi. Tu seras éternellement privé de la gloire de Dieu que tu as refusé quand il était encore temps. Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Ne l'oublions jamais. C'est aussi ce qui fonde notre responsabilité devant lui. La grâce de Dieu est magnifique. Il sait répondre à nos appels, nous faire du bien, agir avec puissance envers nous. Il l'a montré plus encore en Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous à la croix, qui a béni ceux qui le maudissaient, qui a prié pour ceux qui le crucifiaient, et qui s'est levé vainqueur de la mort au troisième matin pour nous offrir un salut éternel. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, avec force, puissance, amour pour le salut. Mais il reste aussi, et il veut rester pour nous, un Dieu structurant. La grâce ne justifie pas n'importe quoi. Dieu n'accepte pas n'importe quoi sous prétexte de la grâce. Dieu n'accepte pas le mal que nous faisons. C'est pour cela qu'il nous faut revenir à lui sans cesse et nous repentir devant lui pour recevoir sa grâce à nouveau, mais en partant sur de justes bases. C'est pourquoi il nous faut nous laisser transformer par lui, nous ouvrir pleinement à lui. Où est le Dieu d'Élie? En tout cas, il n'est pas là où on penserait pouvoir faire n'importe quoi sous prétexte qu'il est un Dieu de bonté. Considérons donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa main droite et sa main gauche, distinctes mais en parfaite harmonie. Et laissons-nous conduire sur sa voie sainte en toute vigilance et dans la confiance en son amour. Amen.